Bonjour à tous. Nous continuons notre lecture de Philippiens aujourd'hui. Et nous nous retrouvons à la fin du chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 12. Paul parle. Je ne prétends pas avoir atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course, m'efforçant de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Nous tous, qui sommes des adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Cependant, là où nous en sommes, avançons dans la même direction. Frères et sœurs, imitez-moi tous et regardez les personnes qui prennent modèle sur nous. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent vers leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils tirent leur gloire de ce qui devrait leur faire honte. Et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toute chose à son autorité. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous sauvés ? Pourquoi sommes-nous sauvés ? Pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Question peut-être évidente. Et peut-être j'en pose une deuxième juste pour la mettre en contraste, pour faire sentir qu'il y a peut-être une différence. Et de quoi sommes-nous sauvés ? De quoi sommes-nous sauvés ? Et je les laisse juste en suspens, puis on y reviendra au cours de la prédication. Alors, je vous rappelle un peu toujours ce contexte. L'église de Philippe, on ne sait pas si elle est à proprement dit persécutée, si des gens de cette église sont jetés en prison. En tout cas, elle est dans une culture gréco-romaine marquée par une loyauté à l'Empire romain et à ses rites et à ses cultes, qui fait que l'essor de la foi chrétienne dans ce contexte-là est sans doute difficile, sans doute expose à du mépris, à du rejet, et peut-être plus. On n'en sait pas plus que ça. Et le fondateur de cette église, qui est l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre, lui est en prison à cause de sa foi en Christ. Pas en prison à Philippi, mais plus. Et loin de vouloir les décourager, Paul utilise sa situation comme une illustration, un exemple, en disant « Pour moi, tout ce qui se passe là concourt et sert à l'avancement du royaume. » Ne regardez pas ma vie comme un échec. Ne regardez pas ma vie comme un échec. Regardez le fait que je sois capable, rendu capable, d'aller jusque-là pour le Seigneur comme un sujet de gloire. Et on avait vu qu'il avait parlé de Timothée, son disciple, il avait parlé de Épaphrodite, un chrétien de l'église de Philippe qui a été envoyé auprès de Paul pour lui apporter des biens matériels et du soutien en prison. Épaphrodite était tombé malade, gravement malade, auprès d'en mourir. Et Paul avait dressé comme ça ses plusieurs portraits, le portrait de Timothée, d'Épaphrodite, et puis finalement le portrait de lui-même, comme des exemples à suivre, des modèles de chrétiens qui s'inspirent eux-mêmes, qui cherchent profondément à ressembler à Jésus dans leur vie. Pour que les Philippiens fassent bien la différence entre deux types de chrétiens. Comme il l'a dit, des chrétiens qui ne pensent qu'à leur ventre, des chrétiens qui vont peut-être traduire, ou plutôt corrompre l'évangile de Christ pour le faire glisser dans la culture du monde dans lequel on vit. On prend l'évangile et puis on le fait glisser pour que finalement, je ne cherche pas à vivre pour le royaume des cieux qui vient, mais je vis pour répondre aux besoins du monde dans lequel nous vivons. Et alors, je suis touché par la manière dont Paul écrit là. Pour nous, l'apôtre Paul, c'est peut-être un des plus grands chrétiens, une des figures les plus consacrées au Seigneur Jésus que nous trouvons dans la Bible. Qui est allé aussi loin que lui dans le renoncement à lui-même, dans le don de sa vie, dans l'exposition à la souffrance, dans la vie, dans la pauvreté? On a peu d'exemples en tête qui pourraient faire la compétition, tenir une compétition avec l'apôtre Paul. Et peut-être que de montrer sa vie en exemple comme ça, face aux Philippiens, pourrait les décourager. Si le but est de vivre comme Paul, moi je laisse tomber. Et Paul dit ceci: je ne suis pas encore parvenu à ressembler à Jésus. Je ne suis pas encore parvenu à comprendre tout ce que j'ai à comprendre. Il dit, je n'ai pas atteint la perfection. Je suis en train de courir encore vers la perfection. Je suis encore en train de me diriger vers le Seigneur. J'aime bien ce verset qui dit, je veux m'efforcer de saisir. Alors, je ne suis pas hyper d'accord avec la traduction. L'idée, c'est, je veux m'efforcer de saisir la chose pour laquelle Christ m'a saisi. Christ m'a saisi dans un but. D'accord ? Et ce but-là, pour lequel Christ m'a saisi, moi aussi je veux le saisir. Dans un sens, je veux le comprendre. Je veux le réaliser. Ce n'est pas forcément l'attraper et l'avoir dans ses mains, plutôt que de l'attraper avec son esprit, c'est-à-dire de le vivre pleinement. Que ça soit une réalité complète pour lui. Et ainsi, Paul trace une espèce de ligne. Une ligne de démarcation. Il y a ceux qui courent après cette chose, ce prix de la vocation de Dieu, et puis il y a ceux qui courent après les choses du monde. Et Paul appelle les chrétiens de Philippe à bien réfléchir pourquoi ils vont courir. Nous qui sommes des hommes faits, des adultes dans la foi, dit-il, eh bien, nous courons pour atteindre cette perfection en Christ. Et vous, courez avec moi, courez avec nous. Prenez comme exemple ces Timothée, ces Épaphrodites, ces gens qui nous imitent, alors que nous, nous sommes en train d'essayer d'imiter Jésus, pour vivre une vie où ce qui va venir compte plus dans leur valeur que ce qui est maintenant. Je reprends souvent cet exemple. Et si demain, pardon, et si je pouvais vous prophétiser que d'ici 5 ans, le dollar perdrait toute valeur et que le rouble prendrait une valeur incroyable. Ou le yuan chinois, je ne sais pas. Dans quelle valeur investiriez-vous? dans celle qui va disparaître ou dans celle qui va arriver. Selon toute logique, dans celle qui va arriver. D'accord ? Pour Paul, vivre pour le royaume qui, certes, n'est pas encore pleinement là, mais qui va venir, c'est investir dans des valeurs qui vont devenir, qui vont advenir, qui vont être réalisées et qui ne partiront plus jamais. Les valeurs du royaume. Il dit, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur, et il transformera notre corps misérable et mortel en son corps glorieux. Alors pourquoi continuer de vivre selon les valeurs de ce monde, puisque les valeurs de ce monde vont partir ? Vous me direz, oui, mais bon, ça fait 2000 ans qu'on dit que les valeurs du monde vont passer. Et en attendant, les valeurs du monde ne passent pas. C'est vrai. C'est vrai que c'est une longue attente. Et c'est vrai que choisir les valeurs du royaume qui vient signifie, peut signifier très clairement, passer une vie ici-bas à contre-courant. Une vie ici-bas à ne pas s'épanouir pleinement dans le sens où tout ce pour quoi l'on vit et tout ce en quoi l'on croit peut être raillé, moqué, dénigré. En même temps, vivre pour les valeurs du royaume, c'est aussi mener un combat pour le bien, pour le bon, pour le beau, pour la justice, pour apporter dans ce monde quelque chose qui va le guérir, qui va le soulager, qui va le purifier, qui va le rapprocher de la vérité et de la justice. Je reviens à mes questions. Christ nous a sauvés pour quoi faire ? Et Christ nous a sauvés de quoi ? Il se peut parfois que les chrétiens confondent les deux. Et la réponse, ça sera « Il m'a sauvé pour la vie éternelle et il m'a délivré de l'enfer, du jugement. » D'accord ? Et donc, quelque part, je suis sauvé pour être sauvé, pour pas aller en enfer et pour être avec Jésus. Mais c'est pas le but, ça. C'est le moyen. Parce que vous allez être avec Jésus pendant combien de temps ? Une éternité. Et ce n'est pas le but d'être avec Jésus. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre dans un monde complètement renouvelé par le règne de Jésus. Il est dit qu'il a le pouvoir, dernier verset là, le verset 21, il a le pouvoir de soumettre toute chose à son autorité. Il a le pouvoir de soumettre toute chose à son autorité, de soumettre la nature, de soumettre ma nature, de soumettre la vie, la mort, les maladies. Toute chose sera restaurée sous son règne et le monde sera délivré du péché, de la mort, de la souffrance, du diable. Et c'est dans ce monde-là que nous allons vivre. Oui, le but, c'est de vivre. Dans le règne de Christ, oui, mais de vivre. Est-ce que nous comprenons cela ? Paul s'efforce de le saisir. Pas d'attraper la récompense, mais de saisir, c'est-à-dire que dans sa vie, dans sa manière de penser, d'envisionner les choses qui l'entourent, de réaliser à quel point voilà, il est appelé à vivre dans ce monde comme quelqu'un qui vit déjà dans le royaume de Dieu à venir. Non mais Paul, tu t'illusionnes, ici on est encore pécheur, il y a encore le mal, il y a encore de l'opposition, et puis tu risques d'en mourir. Paul dit, oui, exactement. Mais puisque je veux connaître la puissance de la résurrection de Christ, je veux être prêt. Je veux, quelque part, considérer que la mort, la souffrance, la maladie, la persécution, le rejet ne soient pas des obstacles à ma vie, puisque de toute façon, je ressusciterai. Sans tomber dans le dolorisme, on ne cherche pas la souffrance, on ne cherche pas le martyre, ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de vivre maintenant comme si Jésus était déjà revenu. Et d'avoir une vie tellement différente, tellement interpellante, d'avoir des valeurs au cœur tellement surprenantes pour celles et ceux qui nous entourent, qu'ils s'interrogent sur pourquoi. D'avoir à cœur cette paix qui surpasse l'intelligence, cette confiance, cette assurance, alors que les circonstances ne sont peut-être pas bonnes, alors que ce qui m'entoure n'est peut-être pas rassurant, de telle sorte que celles et ceux qui nous voient se disent « Mais qu'est-ce qui fait que tu as cette assurance? Qu'est-ce qui fait que tu as cette paix en toi? Qu'est-ce qui fait que tu as cette tranquillité en toi ?» Ce qui fait ça, c'est mon assurance que, à la fin des fins, ma vie sera transformée et je vais vivre éternellement dans un corps glorieux, immortel, dans un monde incorruptible, délivré de toute forme de souffrance, de peine, de douleur. Je suis sauvé pour vivre. Et que ce que Paul essaye de saisir maintenant, comment est-ce que ce sera cette vie ? Comment est-ce que maintenant je peux vivre déjà ? Je peux incarner, je peux refléter, rendre accessible aux autres qui me voient cette vie future. L'Église, c'est le royaume de demain qui fait irruption dans le temps présent. C'est pour ça que les chrétiens sont appelés à être, pour reprendre la métaphore de Paul, debout en train de courir vers un but. Toujours plus s'imprégner de la pensée du Christ, de la vision du royaume, de toujours plus laisser la grâce dont nous avons parlé nous transformer de l'intérieur. Certes, comme l'a rappelé Matthieu à travers l'image de Samson, nous avons une vocation céleste et une vie de pécheur. Mais nous avons une vocation céleste, quand bien même nous avons une vie de pécheur. Et courir vers le but, c'est toujours plus embrasser cette vocation céleste, d'en mesurer l'étendue, d'en mesurer toute la responsabilité, d'en mesurer aussi toute la potentialité. À l'inverse, peut-être certains chrétiens, en tout cas de nom, mais qui d'après Paul se conduisent en ennemis de la croix, brandiraient leur foi dans le pardon et la grâce et le salut de Dieu comme un diplôme en disant « Je suis sauvé ». Sans chercher à rien en faire de plus. Sans chercher à en faire rien de plus. Sans chercher à faire grandir en eux la compréhension, l'incarnation, la réalisation de ce don qui leur a été fait. Et encore cela, je ne dirais pas forcément que ce sont des ennemis de la croix, je dirais que ce sont des chrétiens immatures, des chrétiens qui restent des enfants dans la foi. Les ennemis de la croix seraient encore pire que ça, ils brandiraient leur diplôme pour manipuler les autres et pour obtenir des autres chrétiens un intérêt. Qui soit matériel, qui soit de la réputation, qui soit du prestige, de l'estime d'eux-mêmes, puisque tu es chrétien et que moi aussi tu dois me pardonner, puisque j'ai un diplôme en théologie, tu dois m'appeler pasteur, puisque ceci, tu dois me donner cela, puisqu'il est écrit dans la Bible que tu dois me... Non. Comme en a parlé Nathalie, c'est une réalité dans nos églises, les abus spirituels. Jésus les appelle les loups dans la bergerie. Ces faux chrétiens qui se déguise en brebis pour mieux dévorer les autres. Paul parle d'ennemis de la croix qui courent après leur perte, même le mot exact c'est leur destruction. Parce que leur Dieu c'est leur ventre, et parce que ce qui les rend fiers, c'est ce qui dans le royaume devrait les rendre honteux. Nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux ce passage très joli. Est-ce que je vais le retrouver parce que ce n'est pas la Bible habituelle. Nous avons été rendu pur afin de devenir capable de servir le Seigneur par l'œuvre du Christ. Hier, au week-end essentiel, on a appliqué quelque part une des choses que vous avez vues dans les groupes de maison, pour certains, la bénédiction. Poser les mains sur les épaules des jeunes et leur dire « Dieu te bénit ». Quelle légitimité avons-nous pour cela ? Dans les groupes de maison aussi, on se pose la question, quelle est notre place lorsque nous sommes appelés à simplement contempler la création de Dieu et pour y trouver les merveilles de Dieu ? Nous travaillons avec le conseil d'anciens, on va en reparler lors de l'Assemblée générale, à faire fructifier en nous les dons spirituels que nous avons reçus, prophétie, règne, prêtrise. Quelle légitimité avons-nous, en fait, à nous prétendre des disciples de Christ ? Quelle légitimité avons-nous à nous prétendre invités à la table du Seigneur ? Quelle légitimité avons-nous à nous prétendre des enfants de Dieu ? Aucune. Et ça, on l'avait déjà vu dimanche dernier. Et pourtant, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des serviteurs du roi des rois, vous êtes même des co-héritiers du Christ, et vous êtes des prêtres et des prêtresses de Dieu dans ce royaume. Et aucun d'entre vous dira « Non, Timothée, c'est faux ». Vous allez tous être d'accord avec ce que je dis. Non, peut-être. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on a dit qu'on était d'accord. On répète et on répète inlassablement, c'est difficile à croire. On répète et on répète inlassablement, comme des personnes les plus humbles du monde, pour moi ça me dépasse. Ce faisant, on ne bouge pas. Ce faisant, on ne bouge pas. Oui, on proclame la vérité que Christ a fait de nous ses enfants. Oui, on proclame la vérité que nous sommes co-héritiers. Oui, on proclame la vérité que un jour on s'assiera sur le trône de Dieu. Et puis on dit, mais ça me dépasse. Le Seigneur veut passer par toi. Oui, ça me dépasse. Et à quel moment on dit, bon, arrêtons de dire ça me dépasse. Relevons nos manches, spirituellement parlant peut-être. Et disons-nous, bon, si c'est vrai, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ce matin où je me lève ? En quoi le fait que je sois fils ou fille de Dieu va changer ma manière de vivre ? En quoi la manière dont je suis réellement co-héritier de Christ, ambassadeur de Christ, va changer la manière dont je vais prier ? Va changer la manière dont je vais prier Dieu, où je vais espérer en lui, où je vais collaborer avec lui dans cette journée. Dans quelle mesure je crois vraiment que j'ai une vocation céleste ? Et je l'habite. Et je la cherche. Ce que Paul dit quand il dit « Je ne prétends pas avoir atteint le but, mais je cours ma course pour m'efforcer de la saisir, c'est cela. C'est exactement cela. Tout ce que je suis devenu en Christ, je vais m'efforcer de le comprendre, de le réaliser, mais plus encore, de le vivre. De le vivre. Il y a un grand pas, un grand vide entre ce qu'on appelle la théorie et la pratique. J'avais travaillé avec Julio pour apprendre à faire du plâtre avec Manois dans la maison de famille que nous avons en Corse. Et Julio nous avait préparé un bout de son mur de garage pour nous apprendre à faire le plâtre et à l'étaler sur le mur. En revenant, j'ai partagé que c'était très utile en fait d'avoir eu cette petite expérience préliminaire pour pouvoir ensuite retrouver ces gestes-là et retrouver notre confiance quand on allait étaler le plâtre sur les murs. Une infirmière m'avait partagé que on ne permet pas à une étudiante infirmière de faire, ou un étudiant infirmier de faire un geste médical sur un patient si on ne s'assure pas qu'avant il l'a fait une fois avec un formateur. Entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un monde. On peut connaître les choses théoriquement, mais il faut les vivre pour qu'elles soient réelles pour nous. Et quelle satisfaction personnelle, quelle estime de moi j'ai ressentie lorsqu'on avait terminé de plâtrer l'escalier de cette maison. De la même manière, vous pouvez dire et répéter que vous êtes des enfants de Dieu, que vous avez été consacré pour le Seigneur à le servir. Tout cela peut bien rester théorique en vous. Aussi vrai qu'on peut lire un manuel pour savoir comment techniquement on fait une vidange de voiture. Regardez un tuto YouTube. Et pourtant, cette chose-là ne sera jamais autant réelle en vous que lorsque vous aurez mis en pratique ces choses-là. Et il n'y en a pas une chose à mettre en pratique. Il n'y a pas « Ah, ça y est, j'ai imposé les mains à quelqu'un pour le bénir, je sais ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Ah, ça y est, j'ai parlé de Jésus à quelqu'un dans la rue, je sais ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. J'ai pardonné ou j'ai donné à un pauvre dans la rue, je sais ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. » Non, parce que être un enfant de Dieu, recouvrir sa véritable identité de image de Dieu, image de Christ, ça concerne toutes les facettes de la vie. Pas une seule. Ça concerne mon rapport au travail, mon rapport à l'éducation, mon rapport à la sexualité, mon rapport au couple, à l'amour, à l'avenir, au corps, à la nature, à la musique, à l'art, au sport. Il n'y a pas une facette de cette existence qui ne soit pas concernée par le règne du Christ en moi. Tout doit être retrouvé, restauré et redevenir soumis à l'autorité du Seigneur et redevenir quelque chose d'épanouissant et de fécond dans ma vie et de fécond dans la vie des autres, parce que lorsque c'est fécond dans ma vie, ça va l'être dans la vie des autres aussi. Combien de temps nous faut-il pour réaliser ça? Vous n'aurez pas assez de toute une vie. Mais Paul trace une ligne claire. Il y a ceux qui le cherchent. Il y a ceux qui le désirent. Puis il y a les immatures qui se contentent de tapoter leur diplôme en poche en disant « ça y est, j'ai le diplôme » mais qui ne vont pas forcément chercher à vivre ce diplôme. Et puis il y a les imposteurs. Les loups, les ennemis de la croix, qui tout en prétendant servir le Seigneur, ne serviront que leurs intérêts, que leur ventre. Oui, le chemin de l'Évangile est un chemin fécond, plein de vie, plein de beaux fruits pour nous. Mais c'est un chemin aussi en lutte, à contre-courant, contre l'esprit de ce monde. Mais Paul nous encourage. Si ici-bas vous êtes humilié, si ici-bas vous êtes attaqué, confronté, sachez que, au final, vous serez glorifié à à l'image du Christ et vous allez régner avec lui. C'est ce sur quoi il conclut. Nous avons une vraie espérance, nous avons des vraies raisons de le faire. Alors, frères et sœurs, je vous y encourage de tout mon cœur et je me place complètement à vos côtés dans cette aventure. Découvrez l'ampleur de votre vocation et habitez-la. Comme j'ai dit à l'étude biblique, c'est comme si Christ vous avait offert une nouvelle maison. Quand on a déménagé à Marseille avec Camille, on habitait avant ça une toute petite pièce avec un lit mezzanine et un canapé au-dessous. Quand on a eu notre premier appartement, on a tout déménagé dans un quart du salon qu'on avait à Marseille. Et les chambres, on n'avait pas de quoi les remplir vraiment. On n'habitait qu'un bout de la maison. Et puis petit à petit, on a fini par occuper tout l'espace de la maison. Le Seigneur, en vous sanctifiant, en vous plongeant en lui, en vous donnant cette vocation céleste, ce n'est pas une petite maison ou un appart qu'il vous a confié. J'ai un palais avec un immense jardin autour et une forêt. Et vous êtes les intendants de tout cet espace-là. Alors peut-être qu'au début, vous allez occuper qu'une chambre. Peut-être qu'ensuite, vous arriverez à habiter et investir une aile du palais et un bout du jardin. Mais continuez à persévérer. Vous commencez déjà, en fait, à apprendre à régner tel que vous continuerez à le faire dans l'éternité. Alors courez avec moi, courons à la suite de modèles comme Paul, comme Timothée, comme Épaphrodite et d'autres chrétiens qui nous ont précédés et cherchons à saisir ce pourquoi nous avons été saisis par le Christ. Amen.